Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous revoir. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Philippiens chapitre 3, les versets 1 à 14. Philippiens chapitre 3, les versets 1 à 14 que je vais vous lire. Ça, c'est un petit peu long, mais c'est très important de lire la parole de Dieu. Je dis souvent que nous sommes juste des commentateurs de la parole de Dieu. Voilà. Et alors, si jamais nous rapportons des bêtises, au moins vous aurez quelque chose de sûr dans cette lecture. Philippiens 3, versets 1 à 14. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Cela fait un petit peu allusion à notre frère, à l'étude de notre frère ce matin. Verset 6, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin pour que tu puisses nous enseigner. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Tu sais comment nous sommes, Seigneur. Voilà, que personne ne puisse repartir ce matin, mon Dieu, sans quelque chose dans le cœur. En tout cas, que ce message, mon Dieu, puisse atteindre son objectif. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, notre Créateur, nous a conçus et nous a bien conçus au point où même, parfois dans la parole de Dieu, on voit des messages, des versets bibliques qui disent que nous sommes une belle créature, n'est-ce pas? Nous sommes beaux. Ne doutez pas, vous êtes beaux. Alors, le Seigneur nous a créés à son image. Il nous a dotés de sens. On peut entendre, on peut voir, mais surtout, nous avons un cerveau. Ce cerveau nous permet d'avoir des souvenirs. Vous savez que les souvenirs, c'est très important. Parce que grâce aux souvenirs, on peut vivre plusieurs fois la même chose. Alors, si on a passé un bon moment ensemble, tout à l'heure, nous allons rentrer chez nous, avec ma femme, on le fait souvent, on se remémore tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu, et c'est encore un autre plaisir. On peut se souvenir des rencontres avec les frères, la première fois, parfois on se retrouve entre nous, on se dit, mais on s'est connus quand tous les deux? Il y a 20 ans, hein? Oh là là, mais tu avais des cheveux à cette époque. On se taquine comme cela, grâce aux souvenirs. C'est formidable les souvenirs. Mais parfois, il y a des souvenirs qui sont lourds. Ah, lourds. Vous connaissez Absalom? Vous savez ce qu'il a vécu, Absalom? Vous savez, Absalom, parlant de créature, c'était un beau gosse. C'était le... Alors, dites-moi les filles, qui aujourd'hui est le symbole de la beauté masculine ? Alors, ne faites pas semblant de ne pas savoir. Hein. Bon, allez, je vais prendre quelqu'un de mon époque. Le Brad Pitt, c'est peut-être lui, je ne sais pas. Eh bien, Absalom, c'était ça. C'était un beau gosse. Et il se trouve qu'il avait une petite sœur qui était aussi belle. Vous savez, souvent, les jeunes, là, je m'adresse à vous, c'est un peu mon groupe, ça. Moi, je suis avec les jeunes souvent, parce que je pense que je suis encore jeune. Voilà. Attention à la beauté physique. Ce n'est pas toujours une bonne chose. Hein. Ça peut vous poser des problèmes. La petite sœur d'Absalom, eh bien, Tamar, c'était une belle femme, belle jeune femme. Et elle attirait le regard des autres, des hommes. Et il se trouve qu'il y avait dans sa famille, c'était son demi-frère, qui était attiré par elle. Et il la désirait. Et alors ça, encore une fois, c'est dangereux. Hein. Lorsqu'un garçon s'intéresse à vous, soyez-en sûr que ce n'est pas ce type de désir. Il était attiré par elle, par son physique, et il la désirait. C'était sa sœur. Et il a mis en place un stratagème comme cela pour la voir. Il a été conseillé par son ami, le type d'ami qu'il ne faut pas avoir. Et alors, il va la violer. La petite Tamar va retourner voir son frère Absalom et va lui raconter cette histoire. Et quand vous lisez le texte biblique, on n'a pas l'impression que Absalom était touché par cette histoire. Mais Absalom, pendant 730 jours, alors j'aime bien dire 730 jours, donc 2 ans, il avait ça en tête. Il n'a jamais oublié cette affaire. Et tous les jours, il y pensait. Jusqu'au jour où il a décidé de mettre en exécution son plan qui consistait à tuer celui qui a violé sa sœur, c'est-à-dire son propre frère. 730 jours. Vous êtes déjà resté une journée avec un mauvais souvenir. Une journée seulement. 730 jours. Beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, beaucoup d'entre nous ont de très mauvais souvenirs. Beaucoup d'entre nous vivent avec des souvenirs très lourds que j'ai qualifiés de passé nuisible. Un passé nuisible. Ce matin, nous allons nous focaliser sur le verset 13 et 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je vais faire une chose, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour en remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quel est le problème avec un passé nuisible ? C'est soit le problème, soit parce que nous avons nous-mêmes fait du mal à quelqu'un et ce souvenir, on a du mal à s'en débarrasser, soit, et c'est souvent le cas, on nous a fait du mal et on a du mal à pardonner, à oublier. Beaucoup, je ne parle même pas des chrétiens, dans le monde entier, beaucoup de personnes vivent avec un souvenir terrible, avec un passé nuisible qui va gâcher toute leur existence. Ici, l'apôtre Paul nous parle d'un souvenir aussi. Mais il ne parle pas des choses, on va dire, dures. Hein. Il va faire allusion à ce qu'il était, à ce qu'il possédait, qui il était. C'est allusion un petit peu à ce qu'on a vu ce matin. Hein. Hébreu, né d'Hébreu. Et à un moment donné, même, il dit persécuteur de l'Église. Ça faisait partie de son CV. Alors, il ne s'agit pas de faire table rase de son passé. Ce n'est pas l'objectif. Parce qu'on a besoin du passé. D'ailleurs, le Seigneur lui-même a dit plusieurs fois à Israël de se souvenir. Souviens-toi Israël, souviens-toi, souviens-toi. Tu as été étranger toi-même. Alors, vous savez, ce sont ces passages qui font que j'aime le Seigneur. Est-ce que vous pensez sincèrement? Alors, c'est moins de parenthèses. Moi, j'ai un problème, c'est que je fais souvent des parenthèses et j'ai tendance à m'éloigner de mon sujet. Mais là, il faut que j'en parle. Est-ce que vous imaginez un instant que quelqu'un qui voudrait créer une religion penserait à dire ces choses-là? Souviens-toi, Israël, que tu as été esclave toi-même, tu as été étranger. Donc, reçois bien l'étranger. Reçois le bien parce que tu l'as été toi-même. Cela ne peut venir que de Dieu. Donc, le souvenir est important pour nous. Nous avons besoin du passé. Nous avons besoin du passé pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Nous avons besoin du passé parce que sans le passé, eh bien, on ne pourrait pas se souvenir de ce que Christ a fait dans notre vie. Sans le passé, on ne peut pas non plus se souvenir comment Dieu nous a sortis de la boue pour nous amener à sa lumière. C'est bien dans le passé que nous avons reçu Christ comme sauveur personnel. Et c'est grâce à cela que nous pouvons parler de cela aux autres, le passé. Ce que nous devons rejeter du passé, c'est ce qui nous bloque et nous empêche d'avancer. Est-ce qu'il y a ce matin quelqu'un qui a quelque chose comme ça dans sa vie qui l'empêche d'avancer? J'ai été témoin de ça. Alors, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis cela à cœur ce matin, mais beaucoup d'enfants de Dieu traînent avec eux un souvenir lourd dont ils ne se débarrassent pas. Ce matin, nous sommes appelés à nous libérer de notre passé nuisible. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Celui qui traîne ce passé est fatigué et chargé. Et je sais que vous savez de quoi je parle si vous avez ce problème. Alors, quelles sont les conséquences dans la vie d'un chrétien encore influencé par son passé nuisible? Écoutez bien, vous allez voir à quel point c'est grave. Hein. Premièrement, quelqu'un qui traîne avec ce genre de choses, il n'entend plus Dieu. Ça, c'est les choses qu'on a pu voir. Il n'entend pas Dieu. Parce qu'il traîne cette chose-là. Il n'a pas réglé ce problème. Et quand il entend Dieu, ce qu'il entend est tronqué. Il entend mal. Ensuite, il ne peut pas recevoir les solutions qui viennent de Dieu parce qu'il traîne ce boulet. Il n'écoute plus personne. Il perd sa joie. Il perd sa joie. Alors que Dieu nous appelle à être tout le temps joyeux. Il s'isole. Il est avec vous, mais il n'est pas là. Il finit par faire des crises d'angoisse même. Il tombe dans la dépression. Il ne marche plus en vainqueur, mais en vaincu. Et à un moment donné, vous savez ce qui se passe? Vous ne le voyez plus. Vous ne la voyez plus. Elle a quitté l'église. Il a quitté l'église. Et là, Satan est content. Il a réussi sa mission. Libérons-nous de notre passé nuisible. Se libérer, c'est s'affranchir. C'est se débarrasser, se décharger, se dégager, se délier, se délivrer. Sortir de ce passé nuisible, néfaste pour notre marche avec le Seigneur. Sinon, nous serons accablés, asservis, bridés, écrasés, ligotés. Ligotés. Comment donc se libérer de ce passé nuisible? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Très souvent, ce n'est pas tellement pourquoi, hein. C'est surtout comment on fait. Et c'est merveilleux parce que la parole de Dieu, encore une fois, nous donne tout ce dont on a besoin pour marcher avec le Seigneur. Dieu nous donne absolument tout pour être heureux, pour être joyeux. Donc soyons attentifs ce matin sur ce texte. Verset 13, il dit Paul, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Sommes-nous capables d'oublier ce qui est en arrière lorsque cette chose nous bloque et nous empêche d'avancer ? Comment y arriver ? Comment se libérer de ce passé nuisible ? Eh bien, premier point, c'est en se détournant, ou plutôt en détournant nos regards de notre passé nuisible. Comment concrètement arriver à détourner notre regard de notre passé nuisible. Alors, je regardais de plus près ce mot « oubliant », « oublier ». Alors, ce mot est intéressant parce qu'il veut dire « négliger ». Alors, on parle souvent des faits divers qui arrivent, on voit des enfants qui ne sont pas bien, dont les parents ne s'occupent pas. Les parents négligent ces enfants-là et ils vivent de malnutrition. Il ne faut pas nourrir ce passé. Parce que quand on y pense, on l'alimente. Et parfois même, on se demande si on ne le chérit pas parfois. Comme s'il nous faisait du bien, alors qu'il est destructeur. Il ne faut pas l'alimenter. Ça me fait penser un petit peu à, vous savez, ces animaux, quand les gens partent en vacances, parfois ils reviennent dans des pays exotiques avec un animal. Alors quand il est petit, il est tout mignon, hein, vous voyez. Et alors ils en prennent soin, ils le nourrissent, et il commence à grossir. Il grossit, et il ne sait plus quoi en faire. Parce que non seulement il devient encombrant, mais il devient dangereux. Le passé nuisible, c'est ça. Quand on le nourrit, il prend de plus en plus de la place. Et un jour, il finit par nous détruire. Celui qui a écrit ce texte, c'est bien Paul, hein? Il sait de quoi il parle. Concernant l'oubli de ce qui est en arrière, et d'oublier certaines choses qu'il a connues ou vécues. Il dit, « Moi aussi, cependant, je refusais de mettre ma confiance en la chair, si quelqu'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » L'apôtre Paul, lui-même, a vécu de la méchanceté de la part des hommes. Il dit, et il parle de cet Alexandre le forgeron, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 14 à 16, il dit, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Il a vécu des choses comme cela. L'apôtre Paul a vécu, lui aussi, beaucoup d'attaques, je dis, durant sa vie chrétienne. Et surtout, lui-même a été le cauchemar des autres. Il a persécuté l'Église de Christ. Alors souvent, nous lisons les textes de Paul comme cela, mais sachez que lorsque Paul se déplaçait pour aller dans les églises, l'image que les gens ont de lui, c'est le souvenir de ce qu'il faisait à l'époque. Donc je peux me mettre à sa place que ce n'était pas toujours évident de se déplacer pour aller dans les églises. Et de se dire, oh là là, cette église-là, je m'en souviens, oh là, tu sais ce que j'ai fait là-bas, est-ce qu'ils vont bien me recevoir? Est-ce qu'ils sont convaincus que j'ai changé? Je ne suis plus le même. Et alors Paul, j'essaie de me mettre à sa place, il devait par moments avoir des moments de regret comme ça. Et se souvenir de ce qu'il a fait. Quand il dit, dans Actes chapitre 22, verset 19, quand il dit, je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, rappelez ce texte, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Vous imaginez Paul qui a changé complètement et qui pleurait même pour les chrétiens depuis et qui prie pour eux, se souvenir de ça. C'est terrible. Mais il y a parfois dans notre vie des choses qu'on a fait aux autres et on ne se le pardonne pas. Parce qu'on se souvient de ça et c'est lourd. Mais cela n'a pas bloqué Paul, cela n'a pas empêché Paul d'avancer dans sa foi. C'est ça l'enseignement. Nous devons apprendre à oublier ces choses-là, même les choses qu'on a fait aux autres. Et surtout quand ils nous ont pardonné. C'est parfois les gens nous pardonnent, mais nous on ne se pardonne pas. On a besoin de souffrir quelque part. Il faut que je souffre pour vraiment sentir le pardon. Non. Le pardon, il faut l'accepter. Et il faut avancer. Beaucoup de personnes ont vécu des traumatismes. Quand vous lisez les faits divers, vous découvrez des choses incroyables. Ce qui se passe dans les familles françaises, c'est terrible. Et beaucoup de ces enfants, beaucoup de ces gens entrent dans l'église avec ça. Et nous, on l'ignore. On le parle comme si c'était... on ne le sait pas. Mais beaucoup de gens vivent avec des blessures, des choses terribles dans leur cœur. Peut-être même que ce matin, il y a des personnes comme ça. Et nous, on ne les comprend pas. On se dit, mais pourquoi ils se comportent comme ça? Pourquoi elles se comportent comme ça? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle n'est jamais contente? Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à parler avec vos frères, ceux en qui vous avez confiance, et prier ensemble. Mais ne restez pas avec ça. Ne restons pas avec ces genres de choses. Libérons-nous, libérez-vous de ce passé en négligeant ce passé-là. Ne nourrissons pas ce passé. Non seulement il ne faut pas le nourrir ce passé, nuisible, mais il faut désormais le regarder comme de la boue. Et ce mot boue, c'est joli, hein, mais c'est beaucoup moins joli que ça. Hein? C'est ce que dit Proverbes chapitre 26, verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Alors regardons notre passé de cette façon-là, comme du vomi. Il ne faut pas revenir dans ça. Détournons notre regard du passé nuisible. Mais lorsqu'on détourne ses regards de son passé nuisible, lorsqu'on détourne son regard d'une direction, ce n'est pas pour aller nulle part. On a ainsi fait, hein. C'est quand je détourne mon regard, c'est pour aller quelque part, c'est pour regarder ailleurs. On dit que la nature a horreur du vide, hein. C'est ça, hein. Il faut bien combler ce vide-là. Tu le détournes pour quelque chose. Et c'est ce que Paul nous enseigne ici, par ce texte. En détournant le regard de notre passé, eh bien, il faut désormais, deuxième point, fixer son regard vers Jésus-Christ. Alors, ça, c'est le texte, c'est le mot que vous entendez tous les dimanches, que nous entendons tous, hein. Mais pour moi, fixer son regard vers Jésus-Christ, le mot fixer son regard est très important pour moi, a été très important dans ma vie, à moi. Alors, je suis comme la plupart des jeunes, quand j'étais jeune, j'ai pratiqué l'athlétisme. Alors, ma discipline, c'était la vitesse, hein, c'était le 100 mètres, le 200 mètres. Et je n'arrivais pas à être performant. Je n'y arrivais pas vraiment. Bon, après, j'ai compris que ce n'était pas pour être un champion que Dieu m'a envoyé là-bas. C'était surtout pour apprendre ce mot, fixer. Hein, fixer un objectif. Ce n'était pas pour être un champion. Je l'ai compris assez rapidement. Mais ça m'a beaucoup servi. Et alors, un jour, mon entraîneur me dit, tu as un problème, parce qu'il a vu ce qui n'allait pas. Il m'a dit, quand tu cours, Jean-Louis, tu as tendance à regarder tes adversaires. Tu cours en faisant cela. Or, ce mouvement-là, c'est quelque chose de terrible pour quelqu'un qui fait de la vitesse. Avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Et c'est l'athlétisme qui m'a fait comprendre. Je comprends pourquoi Paul parle de vitesse. Pardon, de vitesse, de course. Surtout que lui, la course dont il parle, c'est du marathon. Ce n'est pas de la vitesse. Hein. Quelqu'un disait que le Seigneur Jésus n'était jamais pressé. J'essaie de faire ça, hein. J'essaie de vivre comme ça. Il n'était jamais pressé, le Seigneur. Hein. Voilà. Apprenons à vivre comme cela. Parce que souvent, sur les routes, ce sont les gens pressés qui nous causent des problèmes. Attention à la vitesse. Donc, je détourne mon regard de mon passé pour fixer, cette fois-ci, mon regard vers Jésus-Christ. Alors, donc il était question, n'est-ce pas, tout à l'heure, quand je vous ai donné cette illustration, du Jean-Louis qui court en regardant sur le côté ses adversaires pour voir où ils en sont. Notre course n'est pas une compétition, c'est juste une course. On n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Vous voyez. Mais alors, si... Écoutez bien. Si mon entraîneur me dit que je perds du temps en regardant mes adversaires sur le côté, imaginez maintenant celui qui court en ayant la tête carrément le côté. Qui a déjà essayé ça, de courir comme ça? On ne fait pas un pas. Celui qui court avec le regard dans le passé, c'est ce qu'il fait. C'est inimaginable. Je détourne mon regard pour le fixer, mon regard sur Jésus-Christ. Et Paul dit au verset 13, je fais une chose, on pourrait traduire, je fais une seule chose. Il dit, je fais une seule chose, c'est oublier le passé et me porter vers l'avant courir vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tout cela, c'est un bloc. C'est une seule chose. Nous, on décortique comme cela, mais en fait, la phrase est en train de dire, on ne peut pas faire cela sans faire l'autre. Vous voyez, ça s'imbrique. Vous voyez, c'est en un seul bloc, cette phrase. J'oublie le passé pour me porter vers l'avant. J'oublie le passé pour avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. La vocation céleste, cet appel de Dieu. Paul était omnibulé par ça. Tout ce qui l'intéresse, c'était ça. C'était servir Dieu. C'était courir pour le Seigneur pour avoir sa récompense un jour. Dites-moi, est-ce que vous pensez à la récompense? Ou alors vous dites, oh non Seigneur, moi le salut ça me suffit. Je n'ai pas besoin de récompense. Alors moi pendant longtemps j'ai pensé ça. Mais penser à la récompense, c'est un acte de foi. C'est un peu comme les enfants quand ils attendent Noël pour recevoir des cadeaux. On a tous été des enfants. On est content de recevoir quelque chose du Seigneur. Et si lui-même parle, si le Seigneur lui-même parle des récompenses, c'est parce que c'est important. Alors quelqu'un qui pense aux récompenses, il pense forcément à son œuvre ici-bas. N'est-ce pas? Et si je pense à mon œuvre ici-bas, est-ce que j'ai le temps de penser au passé? Ben non. Parfois, quand on discute avec des frères comme ça, ou des sœurs, ils sont encore dans des choses, vous savez. Ils vous disent, mais comment tu peux penser à ça? Il y a des choses plus graves, plus importantes. Et ils perdent du temps dans des choses qui ne servent à rien. Des choses qui ne servent strictement à rien du tout. Et vous partez pendant 10 ans, vous revenez 10 ans après, ils sont toujours dans ce truc. On a parfois même des ados de 75 ans, 80. Et vous qui êtes tout jeune, vous dites, mais c'est pas possible, comment il peut penser comme ça? Parce que ce sont des gens qui sont dans des choses qui... On n'a pas le temps de se préoccuper de certaines choses quand on pense à l'œuvre de Dieu. Libérons-nous de notre passé nuisible, frères et sœurs, en détournant les regards du passé pour fixer nos regards sur Jésus-Christ notre Seigneur. Arrêtons de traîner avec ce passé nuisible. C'est un boulet terrible. Alors je sais que, pour ceux que, je ne sais pas si ça se fait toujours comme cela, mais à mon époque, quand on faisait l'histoire, on est très sport aujourd'hui parce qu'il est question de course. Alors ça c'était à l'école, hein, c'était pas dans un club, tout ça. Et donc pendant l'EPS, je crois qu'il existe toujours, le professeur de sport nous demande de courir, n'est-ce pas? Et on fait des tours de terrain. Et alors, je ne sais pas s'il le fait exprès, ou s'il le faisait exprès, mais souvent il s'absentait. Et que se passe-t-il? Que se passait-il lorsqu'il s'absentait? Ben il y en a qui ne couraient plus, hein. Et non seulement, alors moi j'avais une classe vraiment particulière, on avait même un guetteur. Quelqu'un qui était là pour surveiller, pour voir s'il revenait. Pendant ce temps, tout le monde se reposait. Parfois, je me demande, lorsque je vois des chrétiens, des frères là, qui n'avancent plus avec le Seigneur, on a l'impression que, comme si le Seigneur Jésus-Christ, tout d'un coup, était absent. Et donc, ils vont en profiter pour faire autre chose. Allez, ils vont s'asseoir sur le bord du terrain. Et puis, à un moment donné, ils se relèvent et se mettent à courir à nouveau. Vous voyez? Bon, tant mieux, heureusement. Mais cette course, ce que nous fait comprendre Paul, on ne s'arrête pas. Il ne faut pas s'arrêter. Alors, elle est particulière parce que plus on court et plus on est fort. Au moins, il y a cet avantage-là. Mais quand on s'arrête, on n'a plus envie de reprendre. N'ai pas remarqué que se relever après, c'est difficile. Très difficile. Et quand on n'avance plus, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus envie de lire la parole de Dieu. On n'a plus envie. Hein. Qu'est-ce que nous faisons parfois comme ça quand on est seul à la maison? Souvent, je parle de ça quand on est seul à la maison. On est seul à la maison. Personne, il n'y a pas madame, il n'y a pas les enfants, on est tout seul. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, il y a des gens qui passent leur journée à zapper, ils ne regardent rien en fait, hein. Ils sont là, toute la journée. La télé, hein? Ou alors, on écoute une prédication. On est tellement gâtés aujourd'hui, sur YouTube, vous avez des églises sœurs, il y a des prédicateurs, et puis on peut les écouter. Moi, c'est ce que je prends le plaisir à le faire, à écouter les frères comme ça. Et puis il y a d'autres, je ne peux pas écouter. Tellement qu'ils racontent des bêtises, je suis désolé, hein. Mais ça permet au moins de voir les bêtises. Et de se dire, ouh, oh là là, je suis bien content d'être dans mon église. Ça peut servir à ça. Mais surtout, quand on est seul, il faut prendre ce temps pour être avec le Seigneur, pour parler avec lui. Je vous assure, c'est extraordinaire. Là, on est le vrai nous, c'est là, c'est ce moment-là. C'est pas là. Parce que là, on vient à l'église, on s'y tient droit, parce qu'il faut que les gens nous regardent quand même. Voilà, on chante. Mais est-ce que je chante aussi fort quand je suis chez moi? Bon, il ne faut pas déranger le voisin, bien sûr. Mais quand je suis chez moi, est-ce que je chante? Je chante l'Éternel? Est-ce que je chante pour lui? Est-ce que je lis la parole? Est-ce que j'écoute sa parole? Quand on a un passé lourd comme cela, un passé inusible, on n'arrive pas à faire ça. On n'arrive pas à faire ce qui nous permet de marcher avec le Seigneur. On n'y arrive pas. Alors quand je parle de passé, encore une fois, ce n'est pas forcément un passé négatif en soi. Parfois même, on a des frères, on a l'impression, des frères et des sœurs, qui nous parlent de leur passé comme s'ils regrettaient leur passé. Ah, avant, moi j'étais quelqu'un. Mais avant quoi? Avant quoi? Et là peut-être que tu réalises, avant d'avoir rencontré le Seigneur, et bon, là tu t'ennuies là maintenant. Tu te sens plus bien là. Et c'est ce que Paul dit quelque part ici. Il avait le sujet de se glorifier de plein de choses. Mais si ce sont des choses qui l'empêchent d'avancer, aucun intérêt. Ça ne sert à rien. Ayons les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, quand on a les yeux fixés sur Jésus-Christ, on n'est pas perturbé parce qu'on entend la télévision. Comment est-ce que nous sommes durant cette période? On est passé par des moments sombres quand même, hein, dernièrement. Hein, des moments terribles. Ça pouvait être ce qui se passe en Israël, entre Israël et, n'est-ce pas, la Palestine, hein, les Palestiniens. J'ai vu là les chrétiens qui prennent position. Moi, je suis pour Israël. Moi, je suis pour... Nous sommes des chrétiens. Le chrétien est serein. C'est quelqu'un de serein et de juste. Juste comme Dieu, qui est appelé à aimer tout le monde. Il doit pleurer pour les Palestiniens. Je ne suis pas sûr que Dieu soit content de ce qui se passe en Israël. Je ne suis pas sûr du tout. Parce que les Palestiniens, ce sont des créatures de Dieu et Dieu veut les amener au Seigneur. Attention, hein. Nous, on doit prier pour eux. Lorsqu'on a les yeux fixés sur le Seigneur, on est juste, les frères. On juge de manière juste. Parce qu'on voit les choses au travers du Seigneur Jésus. Les yeux fixés sur le Seigneur. Avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, c'est ce qui nous aide à affectionner les choses d'en haut. C'est à cela que nous appelle les questions quand on parle de la vocation céleste. C'est être intéressé par tous. C'est-à-dire que l'appel de Dieu qui vient d'en haut, c'est de nous pousser à faire, à aimer. Je dis souvent que c'est avoir la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. C'est quelqu'un qui vit déjà le ciel sur la terre. Ça, c'est la solution à beaucoup de choses. Pour ne pas dire à tout. Je suis là, mais ma tête est déjà avec le Seigneur. Je suis déjà assis avec Christ. Affectionnez les choses d'en haut. Si donc, nous dit Colossiens chapitre 3, verset 1 et 3 et 10 aussi, il est dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Frères et sœurs, les yeux fixés sur Jésus, c'est ça. Apprenons à nous affectionner des choses d'en haut, pas de choses qui sont sur terre. Et vous savez ce qui se passe quand on affectionne, comme ça on s'affectionne des choses en haut? On devient un extraterrestre. Même parfois pour des frères et sœurs. Parce que toutes nos pensées sont focalisées sur le Seigneur. toute notre pensée. Soyez joyeux lorsqu'on vous traite d'extraterrestre. Tu sais que parfois les païens vous traitent de ça. Tu dis, mais tu es dans un autre monde, toi. Mais soyez-en fiers. Hein? À condition que vous ne fassiez pas des choses bizarres, hein? Bien sûr. Hein? Avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, eh bien, c'est ce qui nous aide à ne pas sombrer. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. C'est-à-dire que même les péchés que nous avons commis envers les frères et envers Dieu, Dieu nous pardonne. On voit que le Seigneur fait tout pour que nous soyons tranquilles. Il y a encore des gens qui vivent avec ça. Ils ont demandé pardon à Dieu, mais ils ne sont pas convaincus que Dieu a pardonné. Mais c'est terrible ça. Dieu pardonne, il n'est pas comme un être humain. Donc s'il pardonne, ne restons pas dessus. Ne perdons pas de temps. Avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui nous oblige à oublier le mal qu'on a fait aux autres et le mal que les autres nous ont fait. Débarrassons-nous de ça, frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu à cœur ce message, mais il faut vraiment tenir compte de cela. Oubliez ce passé lourd. Parfois même, il y a des gens qui vivent avec ça et qui ne s'en rendent même pas compte que c'est ça leur problème. Ils ne s'en rendent pas compte. Avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui nous aide à avoir la sérénité, la paix qui surpasse toute intelligence. Avez-vous la paix? C'est Noël, n'est-ce pas? Noël, c'est ça. Christ est venu pour que nous puissions avoir la paix. Il n'y a rien de tel que la paix. Il est dit que les asiles psychiatriques sont remplis de gens qui n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix. À côté de ça, vous entendez parfois des faits divers incroyables. Des gens qui tuent et qui vivent tranquillement. Et qui continuent à tuer. Oui, vous savez, souvent quand on parle des démoniaques, ça existe toujours. Hein? Des choses que le monde n'explique pas, que nous savons ce que c'est. Des gens qui vivent sans la paix. Frères, ne vivons pas sans la paix de Dieu. Ne nous inquiétons de rien, mais en toute chose, faisons connaître nos besoins et à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées à Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup d'entre nous, je veux dire, on a tous eu une blessure dans la vie, qu'elle soit physique, psychologique ou je ne sais quoi d'autre. Mais la blessure physique, pour le petit garçon, parce que j'étais un peu turbulent, j'avais des bobos partout, et donc j'ai appris à voir ces choses-là. Quand on se blesse, la blessure, elle peut paraître anodine comme cela. Il faut vite la désinfecter, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse cicatriser. Mais une blessure qui ne cicatrise pas, à un moment donné, tout l'organisme risque d'être contaminé. Et ça peut même tuer. Le passé nuisible, c'est ça. Il faut régler ce problème-là. Parce que si on ne règle pas ce problème, on finira un jour par être détruit. Alors, je vais conclure ma prédication. Peut-être que ce matin, certains se disent, mais moi, je ne me sens pas concerné par ce message. Je peux comprendre, parce que peut-être que vous n'avez jamais eu de passé nuisible. Ça peut arriver, non? Voilà. Peut-être que vous ne vous sentez pas concerné, mais dans ce cas, peut-être qu'aujourd'hui même, il faut faire attention à ne pas vous créer un futur passé nuisible. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire attention aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui se disent, mais moi, ce n'est pas mon passé qui est nuisible, c'est mon présent qui est nuisible. Et je peux vous comprendre, hein? Il y a des présents nuisibles. Il y a des gens qui vivent des cauchemars, hein? Ça me rappelle un petit peu mes collègues de travail, parce que je travaille dans le monde. Et parfois, le soir, comme cela, et alors qu'on est tous contents de rentrer chez soi, ils me demandent, Jean-Luc, tu veux pas qu'on aille boire un coup? Et je comprends pas. Mais les gars, on a travaillé toute la journée. C'est le moment de rentrer, voir sa femme, ses enfants. Et ils ne veulent pas rentrer. Ils étaient en train de vivre un présent nuisible. Parce qu'à la maison, ça ne va pas. Moi, j'étais pressé de rentrer chez moi. Excusez-moi les gars, mais il faut que je rentre. Oui, beaucoup de gens vivent des prisons nuisibles. Pour éviter d'avoir un passé nuisible, il faut faire très attention aujourd'hui à ne pas faire un passé nuisible. Mais un passé nuisible, ce n'est pas forcément quelque chose qui date de plusieurs années. Hein. Un passé nuisible, ça peut être la semaine dernière. Ça peut être même ce matin. Peut-être que ce matin, vous êtes venu et puis il y a un frère ou une sœur qui vous a mal parlé. Il faut vite régler ça, hein. Sinon ça va devenir un passé nuisible. Eh oui, vous voyez que finalement, on est tous concernés. Allez, ne laissons pas notre passé nous détruire et nous empêcher d'avancer. Jetons-le loin de nous. Cette phrase du Seigneur Jésus qui dit « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. » Moi, j'aime beaucoup cette phrase, c'est pas le contexte, bien sûr, mais elle ressemble vraiment à ça. Débarrassons-nous de tout ce qui peut nuire à notre marche. Alors, pour terminer, je vais citer juste deux ou trois versets qui ont vraiment, vous prenez Ésaïe chapitre 43, verset 18, où il est dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Proverbe, chapitre 3, verset 24. Ça, c'est mon préféré. Écoutez bien celui-là. Proverbe 3, 24. Le précédent, c'était Ésaïe 43, 18. Alors, celui-ci, il faut vraiment l'écouter. Hein. Proverbe 3, 24. Si tu te couches... Oh, alors j'espérais vous... Non, mais j'espérais les impressionner. Et là, ils ont le verset déjà sous les yeux. Ah, oh, la technologie. Hein. Si tu te couches... Tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Mais pas avec un passé qui nous pèse. L'objectif de Dieu, c'est qu'on puisse avoir un sommeil doux. Est-ce que vous avez un sommeil doux? Tu veux citer le prochain? Sans dire la référence. Que le Seigneur de la paix, alors c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16, que le Seigneur de la paix, parce que c'est de ça dont il est question, la paix de Dieu, vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous, les frères et sœurs. Libérons-nous de ça, libérons-nous de notre passé nuisible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.